France Culture.
Ce matin, on parle de Winnicott.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
1949, Donald Winnicott, anglais, 53 ans, est bien connu. Avec ses consultations pédopsychiatriques et ses prises de position sur l'évacuation des enfants durant la guerre, entendu à la radio par des milliers d'auditeurs de la BBC. Mais durant cet été 49, c'est pour une autre série radiophonique que surgit l'idée, celle à laquelle le nom de Winnicott va être désormais lié, celle de mère suffisamment bonne, ou plutôt au départ, de mère ordinairement dévouée. Mais que faut-il comprendre par bonne, dévouée, ordinaire et suffisamment? Y a-t-il une différence? Et comment savoir si l'on est de ces mères? Et quelle place faire au père? Parce qu'on entre souvent ainsi dans l'œuvre de Winnicott, nous aussi. Commençons par ici. Aujourd'hui, premier épisode de notre série, Donald Winnicott, le psy suffisamment bon.
This is Donald Winnicott of London.
Ici Donald Winnicott, à Londres.
To begin with,
pour commencer, je pense que vous serez soulagé d'apprendre que je n'ai pas l'intention de vous indiquer ce que vous devez faire. Je suis un homme, et par conséquent, je ne peux pas savoir réellement ce que c'est que de voir là, emmitouflé dans un berceau, un petit morceau de ma personne, un petit morceau de moi, ayant une vie indépendante et pourtant dépendante, et qui, peu à peu, devient une personne. Seule une femme peut vivre cette expérience, et seule, peut-être, une femme peut la vivre en imagination, lorsque, par malchance, l'expérience véritable fait défaut.
Bonjour Sylvia Lippi.
Bonjour Géraldine.
Bienvenue, je suis ravie de vous recevoir pour ouvrir cette semaine sur Donald Winnicott. Vous êtes psychanalyste, docteur en psychologie de formation philosophique. Vous êtes enseignante, autrice. De vous, on peut lire Freud, l'ingouvernable, paru aux éditions Stylus, et Sœur pour une psychanalyse féministe, coécrit avec Patrice Maniglier, qui était paru aux éditions du Seuil. Alors, on vient d'entendre la voix de Winnicott. C'était en 1949 sur la BBC. C'est ça, le tout début de ces fameuses causeries sur la mère suffisamment bonne. Comment expliquez-vous la pérennité de ce concept? Pourquoi mère suffisamment bonne, alors que, bah, c'est quand même assez énigmatique, ça nous a marqué? Pourquoi c'est resté lié à son nom?
Je pense que d'abord, ce qui est très important, surtout aujourd'hui, c'est vraiment revenir sur la question de la mère. Déjà, les mots bonnes, ça évoque quelque chose qui n'est pas mauvais. On a été habitué en psychanalyse souvent à définir la mère comme crocodile, la mère comme méduse.
Mante religieuse.
La mante religieuse, la mère qui ne fait jamais bien, la mère trop collée à l'enfant. Je veux dire, il y a
ça,
toujours.
Ça, c'est l'influence de Lacan et
un peu de Freud, disons, et des psychanalystes aussi.
Tous alors. Disons vous aussi.
Voilà, il y a, disons, une façon de penser la mère tout de suite de façon négative. Or, déjà, ces termes-là, normalement dévoués, suffisamment bonnes, évoquent des connotations positives. Et je pense que, bon, je m'occupe principalement, dans les derniers temps, de la psychanalyse et du féminisme. Donc, je suis très contente de parler de la mère et de parler de la mère en ces termes.
Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un petit peu, réagissons tout de suite sur ce qu'on entend dans cette archive, un petit peu, je mets les pieds dans le plat, un petit peu daté, un petit peu réac, un petit peu conservateur, c'est-à-dire l'idée de oh, la mère, on a l'impression que quand Winnicott parle des femmes, il faut forcément qu'elles soient mères pour être vraiment des femmes.
Je pense que probablement, en plus avec l'idée de dire je suis homme, et donc je ne peux pas savoir, vous
voilà.
Voyez, ça c'est
une
question des genres
un peu
problématique, surtout que notamment récemment un ami à moi est devenu père ou mère, c'est-à-dire père tout seul, et j'ai dit que je dois dire que quand même j'ai utilisé et j'ai pensé, j'ai réfléchi beaucoup sur Winnicott. Donc vous voyez, même si lui il peut avoir un discours, que c'est les discours d'un homme de son temps, je pense que quand il parle de la mère suffisamment bonne, je pense que la question d'être parent vraiment dans la toute, toute petite enfance, ça peut être encore utile.
Alors, il y a plusieurs occurrences de ce concept de mère suffisamment bonne. C'est cette expression-là qui est restée. Mais en 1949, quand il a l'idée de ses causeries avec cette productrice de la BBC qui s'appelle Isa Benzi, il parle d'abord de mère ordinairement dévouée. En 51, dans une allocution, c'est là où le terme de mère suffisamment bonne apparaît. Et puis enfin, il y a aussi un texte de 66, le texte d'une conférence pour une association d'école maternelle, où là, il parle de mère ordinaire, normalement dévouée. Alors, bon, mère ordinaire, normalement dévouée, on peut comprendre, mais quel est le rapport avec suffisamment et bonne? Bonne, dévouée, est-ce la même chose? Suffisamment, normalement, est-ce la même chose?
Je pense qu'il y a quelque chose qui est une continuité entre l'idée de normalement dévouée et suffisamment bonne. Et c'est quelque chose de très simple, c'est-à-dire les désirs de la mère mis en pratique. C'est-à-dire la manière avec laquelle toute mère réagit face à l'enfant et réagit même quand elle est enceinte. Il parle que c'est quelque chose qui se prépare, les dévouements, se prépare à partir de, disons, la situation des mères enceintes et après, disons, ça continue ou pas, quand l'enfant sera là. Mais c'est vraiment une mise en acte de ces désirs-là. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas, il faut faire ci, il faut faire là, il n'y a pas de consignes aussi dans ce qu'on vient d'écouter. Il donne pas de consignes aux mères. Il dit pas, c'est, il faut faire comme ça, pas trop, pas assez. Ça, en plus, c'est l'effet de cette traduction, on peut dire, assez bonne. Souvent, on peut penser qu'il y a pas parfaite, non? Souvent, elle est définie comme une mère pas parfaite. Alors ça, c'est une préoccupation qui ne concerne pas du tout.
Les mères parfaites, ça l'intéresse pas.
Non, c'est pas son problème. Et à mon avis, il a raison. C'est plutôt une psychanalyse normative, ou je sais pas, c'est-à-dire pas de la psychanalyse au fond, qui commence à penser et à raisonner en termes pas assez, mais pas suffisamment, mais pas ici, c'est là. Suffisamment, ça veut dire good enough. C'est-à-dire bien plus ou moins, assez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle est dans les désirs et elle fera quelque chose.
Ah, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que suffisamment, ça veut dire assez bien, mais pas à un minimum à respecter. C'est-à-dire, pour être une bonne mère, tu dois à minima respecter ce nombre de principes ou cette recette ou ces manuels. Parce que voilà, les mères aujourd'hui peuvent être assommées en fait par les conseils, qu'ils soient d'ordre médicaux, paramédicaux, de sages-femmes, d'amis, de manuels, etc. Donc là, suffisamment, c'est... Bon, comme il faut, quoi. Juste ce qu'il faut.
Et au fond, ce qu'il dit aussi Winnicott à plusieurs reprises, elle sait. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui est... Il met l'accent sur la rencontre entre l'enfant et la mère. Et cette rencontre est capitale. C'est-à-dire, il va au-delà. Lui, il parle des besoins. Mais elle va vraiment au-delà des besoins. C'est vraiment quelque chose qui se passe, qui ne peut qu'agir. Face à un enfant qui pleure, une mère réagit. Elle fait quelque chose. Et n'importe qu'elle, elle peut faire n'importe quoi, ça sera toujours quelque chose où elle apprendra, où elle découvrira, l'enfant découvrira quelque chose, etc., etc. Mais c'est fondamental qu'il y ait cette rencontre. Si elle dit non, par exemple, toute une série de psychanalystes un peu obsédés par la question de la castration, par la frustration, etc., ils insistent beaucoup sur le fait, il faut pas lui donner. Une mère, parfaite, une mère qui n'est pas parfaite, une mère qui ne donne pas tout à son enfant. Et attention à la fusion, attention à tout ça. Eh ben, lui, Winnicott, il s'en fiche de tout ça. C'est-à-dire, elle est là ou elle n'est pas là. Voilà, si elle est là, s'il y a les désirs, elle est là. Donc, c'est vraiment pas là, dans ces premières rencontres entre vraiment un bébé ou mère, qui ça peut jouer l'Œdipe, c'est-à-dire castration, lui donner, ne pas lui donner, si tu lui donnes trop, alors l'enfant s'école trop. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui va exister en fonction de la rencontre avec l'ambiance, avec les objets. Mais là, il y a quelque chose de fondamental. Si on n'insistait pas sur cette rencontre originaire, c'est très difficile après de voir qu'est-ce que ça peut devenir.
Donc c'est ça la révolution Winnicott dans le champ de la psychanalyse, parce que je précise que Winnicott, voilà, il est né en 1896, il est d'abord devenu pédiatre. Alors d'ailleurs c'est très drôle, parce qu'il a voulu devenir médecin à l'âge de 16 ans, parce qu'il s'est cassé la jambe, et il s'est dit il faut que je devienne médecin parce que j'ai pas envie de dépendre d'un autre médecin, ce qui est intéressant parce que ça veut dire qu'il a peu de confiance d'ailleurs peut-être dans les médecins eux-mêmes. Il devient pédopsychiatre, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. On y reviendra demain avec Marie-Rose Moreau sur cette révolution dans la pédopsychiatrie durant la Seconde Guerre mondiale avec les enfants évacués. Mais on voit qu'il a été aussi influencé par la psychanalyse de Freud. Il est parfaitement contemporain de Lacan. Ils sont vraiment ils ont 5 ans d'écart. Et pourtant, Winnicott se dissocie complètement peut-être de leur domination, on pourrait dire d'une certaine manière, de leur influence.
Ouais, absolument. Déjà, tout le monde était déplacé. Non, c'est ça. Un, c'était à Vienne, l'autre, c'était à Paris, l'autre, c'était en Angleterre.
Mais c'est vrai qu'on voit plutôt la fusion Freud-Lacan plutôt que Freud-Winnicott relu par Freud.
Et il ne faut pas nier que quand Lacan dit retour à Freud, il se réfère justement au fait qu'il fallait s'écarter principalement de l'école anglaise, dont Winnicott est peut-être le représentant le plus important avec Mélanie Klein. Donc, disons que c'est vrai ça. Mais en même temps, je trouve que les points vraiment les plus intéressants, c'est au lieu de mettre vraiment la question triangulaire, et d'ailleurs il l'écrit, au centre du rapport entre, l'enfant et son premier objet, qui est lui-même et la mère, c'est-à-dire il y a ces deux premiers objets d'une certaine façon, il écarte tout de la question édipienne et il est en revanche intéressé par ces éléments originaires des possibilités de faire lien social. Comment il peut faire lien social sinon une mère avec son enfant, sinon par le fait de répondre aux besoins. Après, elle répond jamais, mais en même temps, elle les fait. Ouais. En quelque sorte.
Donc, Winnicott, pour ouvrir cette émission, Sylvia Lippi, on peut dire qu'avec la mère suffisamment bonne, il rompt non seulement avec la psychanalyse lacanienne notamment, et en partie freudienne, mais aussi avec une certaine forme de morale pédagogique. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, pour ouvrir vraiment sur la mère suffisamment bonne? C'est vraiment scission avec la psychanalyse telle qu'on l'entend, telle qu'on la pratique, telle qu'on en a une idée aujourd'hui, et la morale.
Oui, absolument. Et aussi la psychanalyse telle qu'on a critique, je veux dire. Oui. On la critique surtout par son côté souvent normalisant et encore une fois cette centralisation d'Édipe, qui ça ne veut pas dire que ça n'arriverait pas à un certain moment, mais encore une fois, les déplacer de cette position centrale est déjà une grande révolution.
Donc en finir avec Édipe, grâce non pas à Deleuze, mais à Winnicott.
On le mettra à côté.
Il nous faut étudier le rôle joué par la mère et, à cet égard, je trouve commode de comparer deux extrêmes. D'un côté, nous avons la mère qui est suffisamment bonne, de l'autre, la mère qui n'est pas suffisamment bonne. La question qui se pose est la suivante, que veut dire l'expression « suffisamment bonne » ? La mère suffisamment bonne répond à l'omnipotence du nourrisson et, dans une certaine mesure, elle lui donne une signification et ce, maintes et maintes fois. Par l'intermédiaire de la force que donne au moi faible du nourrisson l'accomplissement de ses expressions d'omnipotence, un vrai self commence à prendre vie. La mère qui n'est pas suffisamment bonne n'est pas capable de rendre effective l'omnipotence du nourrisson et elle ne cesse donc de faire défaut au nourrisson au lieu de répondre à son geste. À la place, elle y substitue le sien propre qui n'aura de sens que par la soumission du nourrisson. Cette soumission de sa part est le tout premier stade du faux self et elle relève de l'inaptitude de la mère à ressentir les besoins du nourrisson.
Extrait de l'article de Donald Winnicott, Distorsion du moi en fonction du vrai et du faux self, paru en 1960. C'est vous, Sylvia Lippi, qui nous avez suggéré ce texte, puisqu'effectivement, Winnicott y définit, très bien ce que c'est qu'une mère suffisamment bonne. Alors oui, c'est très bien, ça a l'air très simple, mais c'est assez compliqué. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que l'omnipotence du bébé, ça veut dire quoi ? Les gestes répétés maintes et maintes fois, le self. Alors le self, je précise qu'on en parlera mercredi. Mais voilà, en fait, on a l'impression qu'on a tout compris, mais c'est pas si clair que ça.
Oui, effectivement, je crois qu'il y a un des problèmes de cette notion, c'est-à-dire qu'on peut la lire d'une façon normative, simpliste, ou alors on peut essayer de voir, dans tout l'enseignement de Winnicott, qu'est-ce que ces notions que vous venez de citer signifient. Par exemple, d'abord, il y a un point fondamental, c'est-à-dire s'il y a cette possibilité, hein, disons, de aller à l'encontre des besoins de l'enfant, et il parle très bien des besoins et pas des désirs, hein, ce qui fait
une grande différence. On y reviendra, c'est très important.
Mais là, c'est très clair. Donc, cette possibilité peut permettre, disons, la fonction, disons, les surgissements du vrai self. J'irai très vite, disons, les sentiments de se sentir vivant, hein, disons, c'est-à-dire une possibilité de ne pas mettre en acte trop de défense vis-à-vis de l'autre, hein, vis-à-vis de soi-même et de l'autre. L'omnipotence, vous avez raison à souligner, parce qu'évidemment, oh, mais c'est horrible, l'omnipotence, il faut être castré encore une fois, il faut faire attention, l'omnipotence est négative. L'omnipotence, c'est ce qu'il disait Freud aussi, c'est-à-dire les bébés croient à un monde. Hein, il pense que l'autre et soi-même, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, au fond, hein, il y a ces moments de confusion, hein, que c'est normal, hein, qu'un enfant fasse entre soi-même et l'autre. À l'occurrence, ça peut être les sang de la mère ou n'importe quelle chose qui vient de l'autre ou n'importe quelle autre, parce qu'il ne faut pas oublier que Winnicott, il parle, quand il parle du père, il dit « aux mères ». Hein, quelqu'un qui un père en tant que mère, qui peut être lui-même ou mère, hein, donc très très moderne par rapport, disons, aux questions
de l'époque, oui.
De l'époque, mais aussi on substitue de la mère n'importe qui. Hein, donc c'est pas qu'il est vraiment obsédé par la question mère en tant qu'essentialisante, etc.
La femme, être une mère.
Non, je pense que c'est pas par ce biais-là. Mais ce qui est important, c'est l'omnipotence, c'est consentir à, disons, au bébé de vivre, voilà, d'être dans ces moments où il découvre le monde qui au départ est son monde pour que dans un deuxième temps, il y aura, hein, avec l'expérience du désir, il pourra y trouver que les besoins, il laisse un reste. Et c'est à partir de ces restes qu'il va se constituer l'ère intermédiaire, l'ère de l'imagination, les fantasmes, les désirs, appelons comme on veut. Et c'est là qu'à ce point-là, l'omnipotence devient rencontre avec l'autre et investissement d'autres objets, etc., etc., qu'il n'est pas sur lui-même tout le temps, donc comme ça, il est dans cette phase.
Donc là, c'est intéressant ce que vous dites, Sylvia Lippi, parce que ça veut dire que la toute première phase du bébé, donc vraiment le nouveau-né, n'est pas une phase de fantasme, de projection du bébé. Et là, Winnicott, on peut dire, s'adresse notamment à Mélanie Klein, de laquelle il a été proche. Il a suivi son fils, lui-même a demandé à Mélanie Klein de suivre sa femme en cure, si je ne me trompe pas. Elle parlait du mauvais sein, du bon sein, de la mauvaise mère, de la bonne mère chez le bébé. Lui, Winnicott, il dit, non mais arrêtez avec les fantasmes, en fait, d'un bébé. Il s'agit d'un bébé réel et d'une mère réelle. Donc cette première phase, voilà, c'est des phases d'identification primaire. Le bébé s'identifie à sa mère, il a faim, le sein apparaît magiquement. On pourrait dire aujourd'hui un biberon
oui,
aussi.
Bien sûr, mais c'est toute la question est vraiment dans cette rencontre, parce que ce qu'il dit Winnicott, et ça c'est fondamental, hein, qu'on parlait tout à l'heure du désir de la mère, disons, immanent, disons, exprimé dans les réels, je dirais même, c'est la mère qui s'identifie à l'enfant, et l'enfant à la mère.
Hein, il y a les deux, c'est pas que le bébé avec la mère.
C'est pour ça que la mère, elle fait tout temps avec son enfant et l'enfant fait tout temps avec sa mère. Et je veux dire, ils sont des moments, hein, qui à mon avis, il faut les prendre en considération.
Et ça dure combien de temps?
Ah, ça, je peux pas vous le dire.
Ça peut pas durer trois ans.
C'est aussi
beau. On est d'accord.
Je pense que oui, ça, après, on peut pas non plus, je veux dire, oui, je pense que...
Il faut pas tomber dans l'écueil de quantifier.
Moi, je pense que, nous, les psychanalystes, c'est mieux qu'on rentrait pas dans cette leçon au pédiatre, au psychiatre, au médecin, de discuter de ça. Moi, pour moi, c'est. Et aussi parce que c'est vraiment les sujets, les analystes qui ont affaire avec les bébés, ils savent très bien, c'est pas mon cas, mais bon, on s'est un peu renseigné là-dessus, mais ils savent qu'il voilà, y a aussi les différences par rapport à un sujet à l'autre. Mais en même temps, c'est vraiment. Je crois que vraiment les points fondamentaux de cette idée de laisser ces moments, encore une fois, où les objets doivent se constituer. C'est-à-dire, c'est là. C'est pour ça qu'il insiste beaucoup, au fond, il parle des mères suffisamment bonnes, mais c'est aussi l'ambiance suffisamment bonne.
L'environnement. Il y a une très grande importance de l'environnement.
L'environnement, les affections suffisamment. Il parle dans plusieurs sens. Ça veut dire que l'environnement suffisamment bonne, c'est encore quelque chose qui doit se constituer à partir de cette première rencontre fondamentale.
Et si la rencontre n'a pas lieu?
Voilà, là c'est la deuxième partie de l'explication.
Alors avant qu'on y arrive, mais je voulais tout de suite te poser voilà cette question. Winnicott parle de la préoccupation maternelle primaire. On pourrait se poser la question, et si elle ne se passe pas? Mais Winnicott nous dit, dans la majorité des cas, elle se passe. Alors là, il donne trois grandes phases, trois grandes étapes. Il y a le holding, le maintien, ouais. C'est-à-dire que ça passe par le maintien du bébé. Le maniement, c'est le handling. Donc là, c'est le fait de manipuler son nouveau-né avec des mains douces, à la fois douces et ferme. Et puis, il y a aussi la représentation d'objets, c'est l'object presenting. Donc là, c'est vraiment ce qui va installer une relation du bébé au monde extérieur. Il y a ces trois phases-là. Ce qui me semble être paradoxal avec ce que nous a dit Winnicott sur le fait que les mères savaient. Les mères savent, mais là, pourtant, Winnicott est parfaitement capable de nous dire, voilà, il y a quand même trois grandes étapes. Il y a le holding, le handling et l'object presenting. Si vous échouez à l'une de ces trois grandes étapes, c'est quand même très risqué. C'est-à-dire, il y a le risque de la désintégration, d'un sentiment de désintégration du nourrisson, le risque que le corps soit coupé de la psyché, le risque que le bébé soit enfermé en lui-même, n'ait pas de relation au monde extérieur. Donc, bon, il y a quand même une pression, il faut quand même le dire.
Et alors, déjà, ce qui est intéressant quand même dans ces termes, là aussi, holding, effectivement, c'est un terme assez abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire forcément les garder d'une façon plutôt que dans une autre. Je veux dire, c'est aussi, disons, ça reste assez ouvert pour qu'on puisse, au fond, y mettre dedans l'essence que chacun s'est fait dans sa relation à l'enfant et aussi dans une thérapie, de voir, hein, disons, dans une thérapie, dans une psychanalyse, de voir, disons, comme la personne, qu'est-ce que la personne parle et en quel terme elle parle de ces situations-là, hein, qui sont assez, au fond, communes. Et c'est vrai qu'il y a besoin, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, d'une phase à deux, un, deux, hein, qui sont, ça se confond entre les uns et les deux, et puis il y a après une phase à trois qui, pas encore, pas forcément avec les pères, parce que les pères pourraient être très bien dans la fonction 2 comme la 3, mais encore une fois, c'est tout ce qui concerne les objets extérieurs. Hein. Donc ça, c'est un point important. Mais en même temps, je suis assez d'accord que, disons, il y a quelque chose à partir de ces descriptions qui nous laisse un peu perplexes, et que c'est en même temps qu'il ne parle pas des mots, des paroles, par exemple, qui pourraient venir, disons, intervenir.
Mais c'est vrai, il parle des gestes.
Des gestes, hein, au moins qu'on entend la parole en geste, pourquoi pas. Mais disons, effectivement, dans ces rencontres, hein, moi j'aime bien penser ces liens sociaux qui se créent, ces premiers liens sociaux fondamentaux. Je disons, quelle est la place des mots pour Winnicott? Alors là,
les berceuses, par exemple, voilà, les chuchotements.
Voilà, les chuchotements, et même, voilà, encore une fois, et même l'enfant, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Blablabla, voilà, toutes les babillements qui, Lacan, après, utilisera en plus un terme très important, qui devient très important, qui est la langue, vous voyez, une forme de langage qui n'a pas de sens, hein, qui n'a pas de signification précise. Or, il n'utilise pas du tout ces champs-là. Effectivement, qui est quelqu'un comme moi, qui est quand même, disons, a été formé principalement à Lacan, comme j'ai déjà dit ici avec vous. Effectivement, c'est parti de, disons, cette ouverture sur les langages. Voilà, ça me rend un peu perplexe sur ces points-là, disons. Mais peut-être il y a une manière de l'intégrer, encore une fois, à partir d'un désir, disons, qui est plus large, qui est, encore une fois, qui est les corps. Hein. Mais c'est clair que l'attention principale des Winnicott est vraiment la question, encore une fois, des corps, hein, disons, les rencontres entre la mère et l'enfant, voilà, est principalement
bon. Voilà, il y a des questions effectivement de maintien, de portage, mais aussi de besoins. Ça, c'est besoin. Intéressant, c'est-à-dire qu'on est vraiment, voilà, en voulant parler des mères réelles et des bébés réels et d'une situation réelle, effectivement, est-ce que Winnicott n'évacue pas aussi tout ce qui est de l'ordre beaucoup plus inconscient du désir, mais aussi tout ce qui advient à travers la parole?
Ben, moi, je dirais qu'il les traverse, bon, par rapport à la parole, reste les points vraiment, disons, compliqués, peut-être encore une fois. Disons, l'idée de Lacan ou de Lacanien, c'est d'apporter quelque chose. Il ne s'agit pas de déranger tout ça parce qu'il n'a pas parlé de
voyage. L'un a raison, l'autre a tort. facteur.
Exactement. Mm. On introduit la question du langage à partir de ces données fondamentales qui est la mère suffisamment bonne, avec, comme nous sommes en train un peu de l'expliquer. Mais ce que je voulais dire, un autre risque, disons, de cette lecture winnicottienne, surtout à partir de la mère qui n'est pas suffisamment bonne, c'est des données risquées. Je ne crois pas qu'il les fasse. Mais on risque de donner à la mère la responsabilité de la santé mentale de l'enfant. C'est-à-dire, c'est le désir, de cette façon qu'on a dit, à partir de la rencontre, à partir des besoins, etc., de la réponse aux besoins, alors tout se passe bien, sinon non. Or, et là, c'est un autre point. C'est-à-dire, il y a quelque chose de, et ça c'est l'enseignement de Lacan, il faut le dire, des absolument subjectifs dans les sujets, qui à partir de cette rencontre, il y a un point de contingence, hein, qui ne pourra jamais dire, encore une fois, quels seront les sorts, de la personne qui est en train de se constituer, hein, de ces sujets qui est en train de se constituer. Donc là, je ne crois pas, hein, parce que lui, comme on a dit tout à l'heure, vraiment, il tenait à dire « je ne veux pas parler mal des mères ». Mais il est vrai que dans certaines lectures, on peut risquer des pensées, et c'est, on les voit aussi dans la clinique, ça peut être très dangereux, de tout de suite penser que si la mère n'a pas été suffisamment bonne, bah, il n'y a rien à faire. Mais c'est disons, fichu. Voilà. Ouais. Or, il y a évidemment ces premières rencontres fondamentales, mais il y a ces contingences qui est les sujets, son désir et son inconscient est quelque chose qui va au-delà, encore une fois, qui c'est, moi je dirais aussi, les traumatismes dépassent la rencontre avec les mères, qui est les mystères de chacun quand ils rencontrent un monde et un langage.
Parlons maintenant, Sylvia Lippi, justement de ces moments où la rencontre n'a pas lieu sans être alarmiste.
Est-ce qu'on peut sortir ?
Dans le jardin, bien sûr.
Non, 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 sortir, en ville, tu sais.
Genre New York.
Ouais, viens, on va boire un verre.
Qui est-ce qui va garder Mia ?
Il me semble qu'elle a un père. Écoute, ça fait au moins une semaine que Mia se réveille pas de la nuit. Drew va même pas se rendre compte qu'on est sortis.
Tully, prends ta soirée.
Sérieusement,
je vais très bien m'en tirer.
Ok, Marlo. Toi aussi, t'as besoin de prendre ta soirée. Comment tu peux être une bonne mère si tu prends pas soin de toi ? On le vaut bien, non ?
Et depuis quand se mettre une mine à Manhattan, c'est prendre soin de soi.
T'as raison. On va à Brooklyn.
Mother below is weeping, weeping, weeping. Thus I knew her. En dessous, mère est en larmes, en larmes, en larmes. Ainsi l'ai-je connue. Une fois, allongé sur ses genoux, comme à présent sur arbre mort, je lui appris à sourire, à contenir ses pleurs, à se défaire de sa culpabilité, à guérir de sa mort intérieure. Je gagnais ma vie à la rendre vivante.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna. Savoir.
Un poème écrit par Winnicott et lu par Georges Claes, un poème que Winnicott a écrit alors qu'il était âgé de 67 ans, en hommage à sa mère dont on sait qu'elle a été dépressive quand il avait 9 ans, donc on imagine bien après cette première phase de dépendance absolue. Là, on a un exemple de défaillance, mais est-ce la même chose que la défaillance qu'on a entendue dans l'extrait de ce film qui s'appelle Tully de Jason Reitman, qui est sorti en 2018, où là, une mère épuisée, voilà, on dit à une mère épuisée d'aller sortir, se bourrer la gueule, comme on l'entend. Il y a une défaillance qui est nécessaire, alors qu'une autre défaillance serait subie et à éviter. Sylvia Lippi ?
Personnellement, j'aime pas parler des défaillances, parce que défaillance donne l'idée qu'on pourrait être autre, qu'il y a un défaut.
Ça devient moralisateur.
Voilà, ça devient un peu moralisateur. Il faudrait être d'une façon dont on est défaillant et on accepte d'être défaillant. Bon, à mon avis, c'est un processus qui n'amène pas loin. Alors, après, il y a des situations, encore une fois, et une réalité de quelqu'un qui peut être très... Voilà, qui peut être... Voilà, une mère peut être très bien, qui peut être dans un état, disons, de joie, comme elle peut être, disons, sous les emprises des passions tristes, comme dirait Spinoza, et être dans une autre situation. Nous, dans moi et Patrice Maniglier, dans Sœur, on a parlé de la mère, évidemment, en parlant de la question de la sororité, on a parlé de la mère, et on a essayé, encore une fois, de repenser la position de la mère dans la psychanalyse, et en disant que ce qui est très important, c'est aussi que la mère puisse s'ouvrir à son angoisse quand elle est avec son enfant, qui va un peu contre ce qu'on puisse dire, mais comment elle a angoissé ou déprimé, et ça peut faire du bien. C'est-à-dire, je ne pense pas que ça soit dans l'état physique et psychique de la mère qui se crée cette relation dont on a parlé tout à l'heure, très important. C'est vraiment, ça va au-delà des affects et des états. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aura quand même des situations, des conséquences par rapport à une mère qui est, je ne sais pas, tout le temps...
qui est dépressive, par exemple,
qui est tout le temps sous les divans et qu'elle ne regarde rien. Évidemment, l'enfant réagira d'une certaine façon, mais on ne peut pas dire que de toute façon, un état psychique de la mère fera que l'enfant est celui qu'il est. Il y aura toujours des rencontres, mais c'est pour ça qu'encore une fois Winnicott insiste sur l'environnement. Il n'y a pas que la mère, surtout après. Hein, les cas de Winnicott, hein, vous avez très justement dit que ce n'est pas dans cette phrase principale, hein, qui est encore une fois une situation différente, mais après, il a été lui aussi déprimé vis-à-vis de cette situation.
Bah, le poème, c'est quand même assez dingue, parce qu'il dit quand même, voilà, je gagnais ma vie à la rendre vivante. C'est-à-dire que, bon, après, on ne va pas faire de la psychologie de comptoir de Winnicott, mais enfin, il a travaillé sur la relation mère-enfant toute sa vie.
Ouais.
C'est le penseur de cette relation,
là,
vraiment des premiers instants.
Vous voyez, là, ça peut être aussi vu comme quelque chose, non comme il a été dit, que Winnicott a idéalisé sa mère. Ça, c'est complètement faux. Au contraire, à partir de ces traumatismes, lui, il arrive à en faire quelque chose qui deviendra, au fond, sa marque de fabrique, on peut dire. Donc, vous voyez, de quelque chose d'absolument négatif, déprimant, terrible dans sa vie, il arrive à les transformer. Et là, c'est ces miracles, hein, donc je vous disais tout à l'heure, ces points, ces restes de cette relation qui est important. Donc, la question n'est pas tant comment la mère est d'un point de vue de ses affects et disons de son état de santé, mais c'est la manière avec laquelle elle arrive à rencontrer, probablement elle avait déjà rencontré son fils, et le fils a pu, trouver une manière de supporter ça.
Oui, ça c'est vraiment intéressant, parce qu'on a l'impression que quand on doit rencontrer son enfant en tant que mère, on devrait avoir un psychisme clean. Enfin, je peux pas le dire autrement.
C'est exactement ça.
Et c'est-à-dire que pour que la rencontre ait lieu, il faudrait qu'on soit débarrassé d'un certain nombre d'angoisses, d'affects. Et là-dessus, Winnicott, et vous faites bien de le rappeler, Sylvie Lepi, peut sembler alarmiste parce qu'il dit, bon voilà, quand la rencontre n'a pas lieu, c'est quand on a eu par exemple un deuxième enfant trop tôt juste après, donc on ne peut pas répondre à l'omnipotence du premier enfant. Quand on meurt, évidemment, première raison, mais il parle aussi de dépression. Or, ce terme est un peu flou, c'est-à-dire qu'il y a aussi, à un moment donné, une rencontre qui peut ne pas avoir lieu à certains moments, mais qui aura quand même lieu malgré tout. Là-dessus, quand même, j'aimerais qu'on revienne sur le fait que, est-ce que Winnicott, bon, il a beau dire, voilà, je ne demande pas aux mères d'être inquiètes, je ne demande pas aux mères de se sentir fautives, je ne demande pas aux mères de faire appel à leur responsabilité morale, mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité qui est engagée, de l'inquiétude. Il est un petit peu alarmiste, Winnicott.
Et ça, ça c'est...
Il parle quand même de délinquance, d'angoisse de mort de l'enfant si la rencontre n'a pas lieu.
Et là, c'est notamment, disons, je dirais que c'est sa concentration justement sous ces moments des besoins, et ça, probablement, c'est une des points, des distances qu'on peut prendre vis-à-vis de lui, et évidemment, et n'est pas inscrire tout de suite la question du désir là. hein, c'est-à-dire parce que déjà, il y a toujours, en même temps que les besoins sont satisfaits, il y a toute l'air hein, dont il parle évidemment, mais que lui pense qu'au fond, ça fasse partie des besoins, là, même l'air où, la, où disons, l'enfant hallucine hein, l'objet du désir quand il ne l'a pas. Hein, et disons que ça, c'est toute la problématique si on ne se concentrait pas tout de suite sous l'air intermédiaire, qui sera après l'air du jeu, l'air disons, de l'objet transitionnel. Et probablement, dans les cas d'une dépression, il y a, ça ne veut pas dire que cet air ne puisse pas c'est construire. Mais encore une fois, si on reste à, si on raisonne simplement en termes des besoins, on pense que non. Mais c'est après, on laisse encore une fois, on laisse l'enfant seul, disons, par rapport à son rapport absolument singulier avec les désirs et avec la manière de sous, disons, de supporter son traumatisme, hein, qui n'est pas forcément lié à la mère, mais qui c'est lié à son rapport au monde absolument singulier. Si on laisse de la place pour cette partie-là, alors on peut comprendre que c'est cette partie-là qu'il faut, disons, qu'il faut insister, hein, d'un point de vue surtout thérapeutique, d'un point de vue, disons, psychanalytique. Et c'est tout l'autre enseignement de Winnicott qui est celui de, encore une fois, de l'ère intermédiaire, etc., etc. Mais disons, si on ne lit pas cette deuxième partie, c'est-à-dire cette importance de l'ère intermédiaire, et qu'on reste sous la question du besoin et sous la mère suffisamment bonne, évidemment, on est dans une situation beaucoup plus moralisante et beaucoup plus...
Il faut passer de la dépendance absolue à la dépendance relative. Et c'est des choses qu'il aborde, notamment, on en parlera jeudi avec Anne Boissière sur le jeu. C'est-à-dire, c'est l'espace potentiel, c'est l'espace aussi de l'objet transitionnel où l'enfant apprend, en fait, à se détacher de la mère et à être dans la représentation d'objet, en
absolument.
Fait.
Absolument. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est un de ses soucis. Mais vraiment, il faudrait toujours tenir tous ces concepts ensemble. Parce que, alors, on voit, par exemple, voilà, et cette ère intermédiaire, c'est l'ère du désir, et c'est l'ère du traumatisme aussi. Et c'est l'ère où il y a la transformation. Au fond, si on prend les winnicottiennes de l'ère de la mère suffisamment bonne, c'est celui-là. Hein, c'est celui qui a pu jouer, hein, disons, avec le traumatisme, disons, avec quelque chose de vraiment insupportable et de vivre probablement certaines années avec une mère dépressive, mais quelque chose s'est passé. L'environnement était quand même suffisamment bon. Et surtout, il y avait parce qu'il y avait la place pour que cette autre partie du désir puisse se développer. Parce qu'au fond, c'est ça la partie importante. À la fin.
Un point positif de ma thèse m'amène immédiatement au changement formidable qui a eu lieu depuis 50 ans, voire plus, en ce qui concerne l'importance de la maternité suffisamment bonne. Ceci inclut les pères. Mais les pères doivent me permettre d'utiliser le terme maternel pour décrire l'attitude totale de soin envers les bébés. Le terme paternel doit venir un peu plus tard que le terme maternel. Graduellement, le père, en tant qu'homme, devient un facteur signifiant. Puis la famille suit, dont la base est l'union de la mère et du père et le partage de la responsabilité pour ce qu'ils ont produit ensemble, qui est l'être humain que nous appelons désormais un bébé.
La voix de Winnicott en 1968, mais je signale que Winnicott parle des pères dès 1944 avec un article intitulé « Sobrement le père ». On ne peut pas dire que Winnicott, voilà, ait ignoré les pères, on ne peut pas lui faire cette critique-là. Néanmoins, voilà, on oscille. Est-ce que le père fait partie de l'environnement facilitateur, facilitant, ou est-ce qu'en fait il a le même rôle que la mère? Et puis ce qui nous engage aussi, Sylvia Lippi, à des questions beaucoup plus actuelles, voilà, quid des nouvelles familles? C'est-à-dire qu'effectivement, on a la figure de la mère. Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est une fonction? Est-ce que c'est un rôle? Est-ce qu'on pourrait parler, voilà, de la même manière de parents adoptifs, de familles monoparentales, homoparentales?
Ouais. Bah, moi, je pense déjà que la psychanalyse winnicottienne, avec vraiment l'insistance sur l'environnement, nous laisse ouvert à toute cette possibilité, hein, à la monoparentalité, ou à toute autre forme, c'est-à-dire, et moi j'insiste beaucoup sur les faits cette idée de la mère suffisamment bonne est vraiment une rencontre originaire entre deux êtres. Moi, j'aime bien penser les choses comme ça, plutôt que les genrer tout de suite, plutôt que donner à la mère une position féminine, et je dirais même, et là je vais un peu, je me déplace un peu de Lacan, une fonction, parce que les fonctions sont très rigides. Alors bien sûr, dans une, si on pense en termes des fonctions, la fonction maternelle peut la prendre un homme ou une femme, la fonction paternelle aussi, mais on a toujours l'idée que la mère est celle qui colle, et le père est celui qui permet, on peut l'appeler même langage, figurez-vous, hein, c'est lui qui détache la mère de
la loi, l'autorité, voilà, les tiers,
c'est lui qui fait barrage. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et moi,
et ce qui est intéressant,
disons cette concentration édipienne, pour moi, c'est un peu compliqué.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que Lacan pense plus les choses en termes de quand la rencontre a trop lieu. Presque. C'est-à-dire quand il y a une rencontre par excès, plus que par défaut, oui, oui. Comme chez Winnicott.
Oui, parce qu'il pense encore en termes édipiens, même si, il fait les fameux Aufhebung, comme dirait Hegel, hein, il fait passer l'Édipe de l'Édipe imaginaire de l'historiole freudienne, il fait devenir des grandes figures, disons des grands éléments logico-symboliques. Je veux dire, mais ça n'échange rien, au fond, l'origine est toujours édipienne, c'est-à-dire la fusion et c'est lui qui vient en détacher. Donc s'il y a trop de fusion, trop de rencontres, allez hop, il faut un tiers qui on l'appelle papa, qui on l'appelle langage. Mais disons, pour moi, cette conception est une conception fantasmatique. Il y a son existence dans la psychanalyse et qu'il faut qu'il résiste parce que certains patients ont des problématiques de ces genres. Mais vraiment, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de laisser les choses beaucoup plus fluides. Ça ne veut pas dire, moi j'ai vu notamment récemment, mon meilleur ami avec son enfant, il était un homme. Et on ne comprend pas pourquoi un homme ne pourrait avoir cette préoccupation maternelle originaire dont parle Winnicott. Il l'avait parfaitement. Je les voyais, j'étais là, et moi aussi je l'avais. Quand l'enfant commençait à pleurer, je disais, allons voir qu'est-ce qu'il a. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui n'a vraiment rien dégénéré. Voilà. Donc, et non plus, ce n'est pas une fonction maternelle.
Alors ça, c'est intéressant. Alors, si c'est pas un genre, si c'est pas une, alors évacuons aussi un individu biologique, ni une fonction, alors qu'est-ce que c'est, un rôle?
Moi, je dirais que c'est plutôt, oui, déjà un rôle, mais encore une fois, plutôt quelque chose qu'il faut incarner, c'est aussi des quelque chose, moi, je dirais vraiment des éléments désirants. Moi, je suis un peu de lésienne aussi, hein, donc des flous, je dirais, des flous désirants, qui se met à marche et qui crée des connexions, des connexions. Je veux dire, il y a vraiment des éléments qui se met à marche et peu importe qui est là, je veux dire, mon ami, quand il allait courir vers son enfant, il n'avait pas un rôle. Il était dans une sorte qu'il ne pouvait pas continuer à parler avec moi parce qu'il avait
les désirs d'aller vers l'enfant. Mais alors, c'est un instinct maternel? C'est quelque chose de l'ordre de la nature?
On peut l'appeler, disons,
c'est un mouvement spontané d'altruisme, d'empathie.
Moi, j'aime bien, c'est intéressant cette question. C'est, Winnicott dirait sûrement un mouvement spontané. Dirait sûrement quelque chose comme ça, aussi quelque chose qui fait sentir vivant, hein. Il y a vraiment un désir d'aller. C'est pour ça que je dirais pas simplement une empathie, c'est-à-dire imaginer ce que l'autre éprouve, hein. Je dirais pas que c'est de l'empathie, mais c'est, comme on avait dit tout à l'heure, une identification. Il y a un point, mais identification, ça veut dire, c'est quelque chose de très fort d'un point de vue psychanalytique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de profondément ancré en nous qui touche les éléments profonds et je dirais même traumatiques, désirants du sujet. C'est ça, on a une introjection, dira Freud aussi. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose de beaucoup plus fort qu'une empathie pour courir tout le temps.
Donc voilà, c'est pas qu'un sentiment moral comme l'empathie et c'est pas non plus que de la pure nature, on pourrait dire, que de l'instinct où quelqu'un souffre et on y va. Quoi.
Et c'est pour ça que les paroles sont importantes, parce que lui, il disait tout de suite, j'arrive, je lui parlais. Je veux dire, la parole va avec ses désirs. Il n'y a pas ces désirs-là s'il n'y a pas la parole.
C'est vrai que c'est fou que Winnicott n'en ait pas parlé. Non. Même dans les cas dont il parle en séance, alors on a des pages sur le jeu, sur le squiggle game, qui consiste à tracer un trait et puis le patient va tracer un autre trait autour. Voilà, c'est du dessin, c'est une forme d'expression, mais c'est pas du langage parlé.
Ouais. Et ça, je veux dire, c'est pour ça que c'est toute la, après, bien sûr, on peut parler, par convention et par communauté, on peut parler des mères suffisamment bonnes. Mais vraiment, à mon avis, il faut qu'on commence un peu. Parents suffisamment bonnes. Pour moi, ça pourrait, d'ailleurs, parenté, comme dirait Don Haraway. C'est-à-dire, c'est pas forcément les parents biologiques, mais c'est la parenté.
Une philosophe américaine qui a parlé des manifestes cyborgs. Donc, voilà. Parenté plus que parents.
Oui. Make kin, no baby, disait, non? Par rapport au fait, faites des liens. Et ça va vraiment avec ce qu'il dit Winnicott. C'est vraiment les liens qui est la chose la plus importante. Et ce n'est pas forcément un rôle, une fonction ou une essence avec un genre particulier.
Monsieur Winnicott. Monsieur Winnicott fait très justement remarquer à quelles conditions tout se passe bien, car il est important que tout se passe bien. Et tout ce qui va mal, nous en sommes à le faire dériver d'une anomalie primordiale, de la frustration, terme qui devient clé dans notre dialectique. Winnicott fait remarquer qu'en somme, pour que les choses se passent bien, à savoir pour que l'enfant ne soit pas traumatisé, il faut que la mère opère en étant toujours là au moment qu'il faut. C'est-à-dire précisément en venant placer au moment de l'hallucination délirante de l'enfant l'objet réel qui le comble. Il n'y a donc au départ, dans la relation idéale mère-enfant, aucune espèce de distinction entre l'hallucination du sein maternel, qui surgit par principe du système primaire selon la notion que nous en avons, et la rencontre de l'objet réel dont il s'agit. Si tout se passe bien, l'enfant n'a donc aucun moyen de distinguer ce qui est de l'ordre de la satisfaction fondée sur l'hallucination de principe liée au fonctionnement du système primaire et l'appréhension du réel qui le comble et le satisfait effectivement. Il s'agit donc que la mère apprenne progressivement à l'enfant à subir les frustrations et du même coup à percevoir, sous la forme d'une certaine tension inaugurale, la différence qu'il y a entre la réalité et l'illusion. Cette différence ne peut s'installer que par la voie d'un désillusionnement, lorsque, de temps en temps, la réalité ne coïncide pas avec l'hallucination surgie du désir.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Jacques Lacan, le séminaire, livre 4, la relation d'objets 1956-1957. C'est un texte lu par Noé Margas. Alors on voit que c'est du Lacan, c'est moins simple que Winnicott. On comprend l'influence mutuelle qu'ils ont eue l'un sur l'autre. On peut signaler que Winnicott s'est notamment inspiré du miroir chez Lacan. Mais là, Lacan s'inspire de Winnicott en disant, et on comprend par rapport à ce que vous avez dit, Sylvia Lippi, il adore Lacan qu'on vienne séparer la mère de l'enfant. Donc là, ça l'intéresse tout particulièrement, ce moment où on passe de la préoccupation primaire maternelle à cette phase d'indépendance, ou en tout cas de dépendance relative, avec la frustration, la désillusion, l'entrée dans la réalité.
Au fond, c'est une partie. D'ailleurs, il faut dire que Lacan a consacré tout un séminaire à la relation d'objets. Et effectivement, c'est sa réponse à l'école anglaise. Et il faut dire les choses comme elles sont, il s'est distant complètement. Il y a aussi une première critique, une grande critique qu'il fait au fond dans ces petits passages, parce qu'il dit au fond, Winnicott confond les besoins avec les désirs. C'est que nous avons déjà un peu parlé de ça, mais à mon avis...
Mais il faut y revenir, il faut le dire clairement.
Il faut dire que pour moi, Winnicott, en cette à ces niveaux-là, il ne les confond pas du tout. Il considère ses premiers temps des besoins, mais ces premiers temps des besoins de l'enfant et de la mère qui n'a d'autre manière de rencontrer l'enfant que par ses besoins, mais cette partie-là ne laisse pas cet autre reste qui est le reste qui permettra après de créer l'espace intermédiaire entre les deux.
Donc là où apparaît le désir. Voilà.
Exactement. Lacan après fera vraiment dans ses séminaires, dans celui qui suit, fera vraiment une grande différence. Il précisera la différence entre besoin, désir et demande. etc., etc. Mais ce qui est, à mon avis, important et qui peut-être Lacan ne fait pas attention, obsédé comme il est à ce moment par la question de la castration. Tous les chapitres après, il va dire, mais non, mais comment c'est possible? Là, il y a la castration, et là, c'est philosophe, parce qu'après, il parlera des Winnicott comme d'un philosophe. Hein.
Oui, c'est-à-dire que c'est une manière quand même de les dévaloriser.
Oui,
c'est-à-dire de dire, parce que Lacan lui-même a été philosophe, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est la clinique, c'est d'avoir les mains dans la clinique.
Voilà.
Et donc de dire que les psychanalystes anglais sont des philosophes, c'est
des
une manière de dire
aussi,
ils voilà, c'est une manière de dire, bah ils sont pas dans les cas cliniques.
Voilà, exactement. Mmh. Mais en tout cas, disons vraiment dans ces petits morceaux, il introduit ce qui sera après toute sa clinique, disons édipienne, comme je disais tout à l'heure, reportée sur un champ symbolique. Mais encore une fois, je pense que les tout derniers Lacan, en même temps qu'il donne autant d'importance au lien social, si on lit ces premiers liens entre mère et enfant comme une première façon de créer lien social, de créer vraiment quelque chose, et on ne peut que la créer à partir des besoins parce qu'on ne se comprend pas, je dis les choses pourraient être complètement différentes, pourraient être lies différemment. Je ne vois pas qu'est-ce qu'elle vient faire la castration à ce point. Comme je disais tout à l'heure avec ma patiente, je ne vois pas quel sens, elle avait raison, c'était moi qui avais tort à vous dire, mais il faut.
Alors, il faut que vous disiez ce que vous m'en avez parlé avant l'émission.
Oui, oui. Ah oui, pardon. C'était une de mes patientes qu'elle arrive et dit, vous savez, j'ai un peu de mal à venir vous voir parce que, voilà, j'ai pas pu donner les sangs à mon enfant parce que je devais venir vous voir et mon enfant n'arrive pas encore à utiliser les biberons. Et moi, tout de suite, vraiment, psychanalyse classique, quel est le problème finalement?
En bonne lacanienne.
Bon, lacanienne, un peu de castration, vous ne pouvez pas lui donner tout de suite ce qu'il veut. Et bien, finalement, je me suis tout de suite rendu compte qu'elle avait raison. Elle était une mère normalement dévouée et qu'elle savait mieux que moi qu'il fallait qu'elle lui donne. Et elle disait, mais je ne comprends pas pourquoi je dois lui faire violence. Elle avait tout à fait raison.
Pourquoi? Mais vous lui avez dit?
Oui. Je lui ai dit après, à la fois d'après, quand elle m'a raconté la chose, qu'il ne s'était pas bien passé, etc., on a travaillé la question et effectivement, oui, je trouve qu'elle a... Voilà, on a parlé, je dis, voilà, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, il y a un point qui, à ce moment-là, il n'y a pas de castration. À ce moment-là, il ne faut pas attendre à lui donner les biberons. Je veux dire, et après, si l'enfant ne veut pas, au contraire, il fera un geste pour qu'on l'enlève. Je veux dire, il faut laisser un peu de place à l'enfant, en quelque sorte. Paradoxalement, ce qui nous enseigne Winnicott, c'est que de cette façon, en étant là, c'est l'autre qui apprendra à être seul, comme il est dit, son test éponyme. Hein. Et si nous, on est là, nous-mêmes, à les frustrer du dehors, et croyez-moi, ça, c'est un point très important. Parce que c'est aussi un certain psychanalyste a été fondé sur l'effet de frustrer un peu les patients, les castrer. Non, je ne veux pas lui parler, je dis rien. Bien sûr qu'il ne faut pas parler à la place des patients. Ça, Freud nous a enseigné ça. Mais parfois, jouer un peu les rôles de celui qui frustre, qui ne donne pas la réponse, qui veut, encore une fois, laisser faire l'expérience de manque, eh bien, je pense que nos patients et patientes font l'expérience de manque, comme l'enfant de Winnicott par lui-même, qui n'a pas besoin d'exagérer de ce point de vue-là, comme l'enfant de cette patiente. Hein.
En quelques secondes, Sylvia Lippi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans le texte, c'est l'idée de l'enfant ne soit pas traumatisé. Vous l'avez dit, il y a d'abord la phase des besoins, puis il y a l'ère intermédiaire, en fait, où on passe de la dépendance absolue à la dépendance relative, puis à l'indépendance. Et c'est là où le désir advient pour l'enfant. Mais il y a une peur terrible, c'est qu'il soit traumatisé. Est-ce que le trauma, en fait, c'est quelque chose de normal? Tout le monde est traumatisé ou est-ce que c'est vraiment une rupture? En quelques secondes, Sylvia Lippi.
Moi, je pense que les traumas appartiennent à toute cette ère intermédiaire. C'est là qui se joue la question.
Il y en a forcément ?
Il y a. C'est-à-dire, c'est là-bas, c'était la rupture au fond de la rencontre avec le monde et de son propre désir. Là, il y a une rupture. Et là, disons, on revient à Freud vraiment pour penser les traumatismes non seulement en termes d'événements, quelque chose, qui se passerait à partir d'un fait concret, mais quelque chose qui advient au niveau inconscient et que c'est les sujets qui peuvent, avec l'aide d'un psychanalyste évidemment, de trouver la manière avec laquelle réagir et se réinventer comme il a fait Winnicott, probablement vis-à-vis de son expérience personnelle avec sa mère.
Merci beaucoup à vous, Sylvia Lippi, d'avoir ouvert cette semaine sur Winnicott.
Merci.
De vous. On peut lire Freud, l'ingouvernable aux éditions Stylus, Sœur pour une psychanalyse féministe, coécrit avec Patrice Maniglier aux éditions du Seuil. Mais maintenant, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Comment Kafka répond-il à Proust ? On est parfois tenté de se défier de l'impression qu'il y a des grands, des très grands ou des très grandes artistes dans l'histoire de l'humanité et que, en plus, ils se répondraient en quelque sorte par-dessus les âges les uns aux autres. Nous construisons des sortes de mythes, sans doute, qui sont ceux des grandes œuvres qui inventent quelque chose d'absolument singulier et en plus, par un réflexe qui a quelque chose d'irrésistible, nous les mettons en dialogue comme s'ils correspondaient par-dessus les aléas de l'histoire. Il y a là quelque chose sans doute de trompeur, mais peut-être aussi d'irrésistible et peut-être de très profond. En tout cas, cela m'est arrivé très concrètement récemment. Il se trouve que je me trouvais à Prague et qu'à Prague, on ne peut pas échapper à Kafka, que Kafka y est devenu une icône paradoxale, avec son chapeau, avec aussi cette sorte de mélancolie peut-être et de culpabilité historique vis-à-vis d'un membre de cette communauté en triangle à Prague. Il y avait les Tchèques, les Allemands et les Juifs qui étaient en quelque sorte pris entre les deux et Kafka en est venu à incarner cette figure et cette ville au cœur de l'Europe centrale et qui aujourd'hui incarne justement un désespoir de la démocratie européenne. Et en relisant Kafka, on découvre évidemment que c'est son œuvre et son écriture qui fait vivre ce symbole, qui fait vivre cette force de l'intérieur. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé comme une surprise de plus et quelque chose que je ne peux pas ne pas tenter de méditer. D'éditer, de réfléchir, qui nous renvoie à ce dialogue à travers l'histoire, à travers les âges, à travers les années. Voici en effet la première phrase du procès. Le procès de Franz Kafka, ce livre publié de façon posthume, mais pour lequel, malgré tout, Kafka avait laissé des chapitres très ordonnés, notamment le premier, le dernier, et des fragments aussi, comme le montre magnifiquement Jean-Pierre Lefebvre dans les analyses de sa nouvelle édition en folio et en pléiade chez Gallimard. Eh bien, la première phrase du procès. La première phrase du procès n'a pas seulement quelque chose d'inoubliable, une première phrase entre toutes les premières phrases, une première phrase qui nous emmène dans tout le XXe siècle, mais c'est aussi pour moi, tout à coup, cela m'a frappé, un dialogue conscient, inconscient, sans doute pas conscient, sans doute dans nos esprits à nous de lecteurs, un dialogue avec une autre première phrase, un dialogue avec la première phrase de La recherche du temps perdu de Proust. Quelle est en effet la première phrase du procès de Kafka ? La voici. Quelqu'un avait bien dû calomnier Joseph K, car sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un beau matin. Dès la première phrase, nous sommes Joseph K, cette majuscule qui n'a pas de... Voilà, ce K qui a marqué toute l'histoire du XXe siècle et encore aujourd'hui. Dès la première phrase, nous sommes avec lui. Il y a des agents qui viennent l'arrêter à son réveil un matin dans sa chambre et on ne sait pas pourquoi. C'est l'enfer carcéral du XXe siècle qui commence dès la première phrase du procès de Kafka, juste après la Première Guerre mondiale. Or, voici quelle était la première phrase dans La recherche du temps perdu de Proust. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Avant la Première Guerre mondiale, la première phrase, c'est un petit garçon qui embrasse sa mère avant de se coucher. Après la Première Guerre mondiale, c'est un sujet qui se retrouve enfermé sans raison, au réveil. Avant la Première Guerre mondiale, on se couche angoissé mais confiant. Après la Première Guerre mondiale, on se réveille arrêté, sans raison. Quel est le dialogue entre ces deux premières phrases, coupé par la brûlure, la cicatrice de la Première Guerre mondiale ? C'est ce dialogue qui constitue notre histoire.
Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouve demain et un grand merci à toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Anna Fulpin, Carla Michel, Corinne Amar, Axel Dubois, Victoire Mellet et Nassim Elkabli, à la réalisation Colin Gruel, à la lecture des textes Colin Gruel lui-même et Noé Margas, à la prise de son Noé Chabanne. Pour retrouver toutes les émissions d'Avec Philosophie et cette toute première émission sur Winnicott, rendez-vous sur le site de Radio France et bien sûr sur l'application Radio France.